éphémère, 89.1 MHz. Bonjour et bienvenue, vous écoutez éphémère, il pleut dehors, on s'en fout, vous écoutez la radio, ouais, Thomas est de retour.
Ouais, Thomas.
Radio éphémère, Ouais, radio éphémère.
Allez, le babillard.
Ah mince, excuse-moi, oh pardon, ok, on reprend. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Radio FMR, c'est Xavier et Thomas avec vous pour Supplément Week-end. Et donc, comme tous les samedis, FMR ouvre avec ses magazines, donc le Supplément Week-end, BD, cinéma, télévision et ensuite le cahier du sport avec du Toulousain contre de l'anglais, ça va saigner, il va avoir une histoire de steak à 15h du mix avec du reggae, Zarma Farai, 17h du punk, vie d'ordure, 18h une participative, tu peux l'ouvrir. Malheureusement, sans l'insertion phonique, je crois que ça va être un peu dur pour eux. 20h, la Stétéro Expérience avec Digitro et quand c'est trop.
C'est trop pico.
Voilà, je m'en doutais un peu. 21h30, Liquid Sky et 23h jusqu'à, oula, 3h du matin, Peyo et SKS pour Breakbeat Experience.
Hein ouais.
Ouais, on peut le dire.
Ouais, bon programme. Hein.
Bon programme. Hein. T'as vu, ça a pris des couleurs. Ça, c'est, le, ah, c'est l'arrivée du printemps.
Ouais,
c'est l'arrivée du printemps, ça.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Oui, enfin bon, on va pas se moquer aussi, on va arrêter de tirer sur les ambulances, hein. On peut arrêter de parler de...
De nos prédécesseurs ?
Non, du move. Ah. Oh, c'est la même chose pour moi, c'est la même catégorie, enfin que veux-tu. Enfin bon, que veux-tu ? Mais là, je promets un programme qui va cartonner normalement.
Cartonner ça.
Ouais, mais bon, je veux dire musicalement parce que j'ai... J'ai loupé un poisson aujourd'hui, je t'expliquerai après le morceau d'intro.
Just wait.
On a commencé avec Wait and See de Jeff Schwartz. Featuring Chinkinky. Ouais, je sais, je cartonne un peu aujourd'hui. Je bourrine un peu, là, comme ça. Ça faisait 3 semaines, là, Thomas, la dernière fois que t'étais venu.
Attends. Ah ouais, 3 semaines. Ah, ça commence à bien faire, là. Hein.
Ouais, tu sais que quand même, prochaine fois, tu vas être à ma place, hein.
Dans une des prochaines, oui.
On vous annonce rapidement quand même, puisque on a fait le compte de ce qui va arriver. C'est absolument monstrueux.
Oui, on a le planning fait pour pas mal d'émissions là déjà à l'avance.
Là déjà, donc on peut vous dire qu'il y aura des histoires de monstres, qu'il y aura des histoires d'amourettes et de nouvelles mangas, il y aura des histoires
de super-héros masqués.
Moi je dirais plutôt V pour votre ville et plein d'autres choses que l'on prépare quand même. Là on a un programme bien serré, bien masqué.
Ouais.
Et d'ailleurs, puisqu'on en est justement à la partie agenda un peu, voyons qu'est-ce qu'il y a prochainement. Voyons alors, qu'est-ce qu'on a récolté un peu dans le bac à flyer de la radio. Dimanche 9 au Brown Café, ça commence à 21h, le prix d'entrée de 5€. Radio Bomb et Morgus, ça va être de la techno, mais vraiment la techno pure et dure, celle des Travelers et tout ça, hein, c'est avant même celle des Technival. Donc c'est au Brown Café dimanche 9. Sexy Sushi, c'est un événement radio éphémère. On pourra le passer tout à l'heure pendant les publicités, je pense. Sexy Sushi, donc ce sera le samedi 15 au bar chez Pierre. Et qu'est-ce qu'il y a ce soir, samedi 1er avril? Une soirée hip-hop bien crade avec des filles à poil sur un flyer de très mauvais photomontage. C'est au PV. Heavyweight Sounds Part 2 avec DJ Estein, Tengu, DJ Wine et en beatbox Engine KMK. C'est les mecs de Radio FMR, ça, KMK. Donc je pense que quand même ça devrait cartonner. C'est ce soir à partir de 22h30, paf, 3€, et gratuit pour les filles avant minuit. En général, quand on met ça, y a pas beaucoup de filles. Non, je déconne, c'est complètement faux, au contraire, elle s'y presse. Voilà.
Si on passe à l'agenda maintenant.
Ouais, tout à l'heure je parle d'une BD qui s'appelle Butch Cassidy, qui est dessinée par un Toulousain d'adoption entre guillemets, puisqu'il s'agit de Vermeaud Desroches, Jean-Emmanuel Vermeaud Desroches, qui sera en dédicace tout à l'heure à partir de 15h à la librairie Terre de Légende, c'est rue Gambetta. Thomas?
Oui, c'est. Je pense que vous êtes au courant que c'est le 1er avril aujourd'hui. D'ailleurs, Xavier, si tu peux regarder ce que t'as dans le dos, je pense que tu as quelque chose.
L'enfoiré, il l'a fait.
Le carnaval de Tournefeuille aujourd'hui, c'est.
Sous prétexte de passer derrière la régie, bravo.
Spécial jour de pluie, carnaval de Tournefeuille aujourd'hui, ça commence à 15h. Il s'agit d'un défilé de chars, ça commence à la rue de la Résistance avec sur les chars il y aura les enfants élémentaires, des élémentaires et des maternelles, des CLAE. On va rappeler les CLAE, c'est les centres de loisirs après associés à l'école. Et ce défilé poursuivra direction rue Doumergue, fera escale à la place de la mairie, foyer Panouse avec la fanfare, il y aura des tirs de canon, de confettis, des chansons carnaval et des danses, et finira au lac des pêcheurs. C'est à Tournefeuille.
Profitez de la verdure, mais pensez quand même aux impairs.
Voilà, parce que voilà, il y a une météo un peu capricieuse aujourd'hui.
Thomas, tu continues toujours?
Ouais, je voulais juste signaler pour ce carnaval-là que c'était en collaboration avec l'usine, qui est un collectif d'artistes de spectacles de rue.
Ah oui, donc il y aura du festif, du jonglage et
voilà,
tout ça.
Voilà.
Ouais, ça va être
si
sympa.
Vous voulez amener vos gamins, c'est l'occasion idéale.
Ok. Ah, j'ai envoyé trop tôt l'autre fond. Ce lundi, dans Delirium City, Olivier va faire du gros, du très gros, du lourd, et recevra la semaine du rock. 10 groupes de rock invités sur Radio FMR. Lundi, à partir de 20h, sur ce plateau ici, va avoir du monde. Et encore, il y aura encore plus de monde au-dessus, on fait la réunion, entre guillemets, tous les mois, on se donne rendez-vous entre animateurs, on se fait un petit apéro où on discute technique.
Oui, surtout, on discute technique et aussi il y a un apéro. Faut pas quand même,
pour
nous prendre pour des branleurs non plus. Hein.
Voilà, donc on sera derrière, on fera un petit coucou à notre camarade Olivier. Olivier, qu'on aime beaucoup et qui est vachement convivial, il faut quand même le dire. On parlait tout à l'heure de l'exposition Nouvel Manga. Elle a lieu au cinéma à l'ABC. Le vernissage de l'exposition se fera jeudi 6 à 19h30 en présence des auteurs, puisqu'il y aura Frédéric Boilier et Aurélia Horita, qu'on recevra la semaine prochaine dans Supplément Week-end.
Yo!
Yes! Plutôt Tsukides. Et voilà, et j'espère que ce sera une bonne occasion. Jean Giraud, aka Moebius, sera en dédicace vendredi 7 à Toulouse à la librairie Atmosphère en rue des Filatiers pour Mister Blueberry, bien sûr, et Icar et tout est BD à côté. Donc voilà, Jean Giraud en dédicace à Atmosphère. Farid Boudjelal, le frère de Mourad, le fondateur des éditions Soleil, Farid, il fait une BD qui est très douce, assez étonnante, comme un petit polio qui parle en fait de lui-même en tant que handicapé, mais aussi juif arabe, qui est une BD qui tombe bien en ce moment avec les élections en Israël et après les élections en Palestine. Il sera en dédicace à la médiathèque samedi 8, donc en même temps que Boilé et Aurélien.
Ouais, d'ailleurs, j'ai vu une interview de lui sur le net, sur un forum que tu connais bien,
oui,
QABD.com, où il disait heureusement, il n'y a pas eu de mort suite à la sortie de ma BD.
Oui, c'est vrai, oui, mais en même temps, c'est vrai que c'était quand même une BD qui était assez assez violente et agressive, c'est-à-dire que tu as un rabbin intégriste qui a une fille et un musulman intégriste qui a un garçon, qui s'aiment et qui sont plutôt laïcs et qui aimeraient vivre en paix, mais leurs parents leur font une guerre impossible, ils se détestent, c'est genre Achille Talon et le Funeste, mais en pire, c'est-à-dire avec la guerre des tranchées et la construction du mur de béton. Du sport vient d'arriver et salut Duce. Oui, moi aussi, il faudrait que je pense à passer chez le coiffeur. Voilà. C'est pour ceux qui n'ont pas la couleur, on vous explique un peu. Voilà.
Ouais, donc du coup, le logo de l'émission où il y a nos petites tronches, elle est plus d'actualité maintenant. Il s'est coupé les cheveux.
Ah mince.
On le reconnaît plus.
Ah ouais. Du sport. On comptait sur le 1er avril pour faire le... Ouais, bon, quand il revient tout à l'heure. On comptait sur le 1er avril pour lancer le logo officiel de l'émission. Et là, tu mets en l'air le truc, là. Vous pouvez la voir sur le podcast de l'émission. Il suffit pour cela de chercher Supplément Week-end, Radio FMR, podcast... Donc, Supplément Week-end, FMR et podcast. Et là, vous tombez dessus, vous tombez sur le lien ou sinon sur un site qui vous propose d'écouter les précédentes émissions en archive, puisque toutes les archives, tous les suppléments week-end sont archivés sur notre site en propre. Vous pouvez les réécouter comme vous voulez, comme vous le sentez. Et puis
vous
voilà.
Pouvez même relire les textes qui nous ont aidés à préparer ces émissions, les textes des chroniques écrites.
Donc voilà, donc on met le lien, il est sur le site de Radio FMR ou sinon cherchez Supplément Week-end et FMR. Normalement, vous tombez dessus sans aucun souci. La revue de presse vous est présentée par Thomas, le temps que ce lecteur CD de merde se câlin.
Allons.
Eh ben oui, c'est un lecteur CD à moulinette, alors que veux-tu ?
Tiens, eh ben moi je commence ma revue de presse, le numéro 18 du magazine CinemaScore, 3€, avec en couverture ce mois-ci Nathalie Portman pour la sortie prochaine de V for Vendetta, auquel nous accorderons une spéciale.
Avec... on espère, on va essayer de choisir une victime au hasard, on va la kidnapper, on va la tondre, on va l'endoctriner, on va la séquestrer et on va l'interroger en direct.
Voilà exactement comme dans le film, on va le raser. Alors dedans, alors je vous cache pas que si j'ai acheté le magazine, ce n'est pas pour V for Vendetta évidemment. Enfin si aussi, évidemment, si aussi pour V for Vendetta, mais surtout pour le magnifique dossier de 22 pages que le Score a accordé à Silent Hill. 26 avril toujours. Le petit gimmick avec une page, deux pages, trois pages, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pages d'interview de Christophe Gans. Quand même ça le fait. Tout ça, tu vois. Ensuite, une interview de Roger Avary, qui est son comparse, co-scénariste et qui a co-écrit aussi le scénario de Pulp Fiction avec Tarantino, s'il vous plaît. Il y a aussi
Kingsway,
voilà, qui est réalisateur de Kingsway, son premier film exactement, et les lois de l'attraction. Et dedans, il y a des photos, interview de la chef décoratrice Carol Spire, qui est d'ailleurs collaboratrice de Cronenberg. Enfin bref, que du bon, que du lourd, que de l'intéressant, pas de langue de bois, coup de poing dans ta face, si tu veux prendre une leçon de cinéma et si tu n'as pas envie de t'accéder dans une école de cinéma pour taper des bouquins chiants, eh ben tu lis les interviews de Christophe Gans et puis t'en apprends beaucoup plus que dans une école de cinéma. Qu'est-ce qu'on a dedans aussi? Eh ben on apprend aussi que le prochain projet de James Cameron, il a annoncé qu'il voulait faire les remakes à répétition de films qui sont les fleurons de la nouvelle vague française. Et le premier projet qu'il voudra adapter, c'est Pierrot le Fou. Alors là, on sait pas trop ce que ça va donner, mais on est preneur en tout cas.
On est preneur, on verra ça, on attendra ça avec beaucoup d'impatience.
Voilà, voilà. Score 3€, c'est le numéro 18.
On m'avait reproché d'avoir fait soit trop simple, soit trop compliqué. Il faut savoir, c'était la semaine dernière et c'était évidemment le quiz Spirou qui avait désarçonné pas mal de gens. Ben, comme quoi, à ce qui paraît, j'avais été un peu trop brutal dans les choix. D'autres qui disaient, bah, non, c'était super simple. Et ben ça y est, les réponses sont déjà sur le site, et c'est quand tu veux, toi.
Il parle au lecteur. Hein.
Oui, si enfin, le lecteur de CD, hein, c'est très différent. vous pouvez toujours jouer, puisque vous pouvez atterrir directement sur le quiz sans poser de questions. Il y a toujours le lien sur le site internet de la radio. Et d'un autre côté, vous pouvez avoir les réponses à ce fameux quiz auquel du sport a fait un magnifique score de 1 sur 10. Et c'était grandiose. À noter que t'es pas le seul à avoir râlé sur la difficulté des questions. Il y en a d'autres qui pourtant étaient vraiment de la génération Spirou qui se sont fait avoir.
Non, mais moi, je te l'expliquais la dernière fois. Hein. Moi, c'était Tintin. Mon frère, c'était pilote et tout. Mais on est passé à côté de Spirou dans la famille. Donc voilà, c'est tout. Hein.
Donc ceux qui nous écoutent en podcast sur un baladeur, avancez direct de 5 minutes. Ou sinon, je sais pas, écoutez RTL2 au moment où ils passent les pubs. Là, en ce moment, ce sera super. Les fameuses questions, les 10 questions. L'animal de compagnie roux dont il était question, c'était Bill, de Boulet Bill, de Roba.
Ah non, moi je pensais à l'espèce Steve. D'écureuil.
A pensé l'écureuil.
Tout le monde a ça, le jeu. C'était ça le jeu. Un personnage de Peyo très fort. Alors j'ai eu le schtroumpf costaud, j'ai eu grosse bouffe. J'ai eu grosse bouffe, ça m'a surpris.
Moi j'ai dit super schtroumpf.
Et en fait, c'est Benoît Brisefer.
Ah bah ouais, facile.
Et oui, en plus, il y avait un...
Après, quand on dit, c'est facile.
Il y avait une indication sur le web, c'est qu'il y avait un accent dans le titre. Le faux frère de Fantasio. On le voit juste dans le tome 2 et dans l'un des derniers tomes sortis, il s'agit de Zantafio, un vrai cousin de la branche délinquante de la famille. La boîte qui est face au 6e.
Ah, ça j'ai trouvé.
Eh ben, il s'agit de Smith, mais en fait c'est la boîte en face tout court, c'est Jules qui est de chez Smith en face, dans Gaston Lagaffe. Et à gauche, en sortant de l'accueil de chez Dupuis, il y avait du grand Lapoigne. Avait toujours réponse à tout. Le fureteur, qui était l'une des rubriques éditoriales de Spirou, et qui a été récemment ressuscité par un certain Martin Vinclair, que l'on salue bien d'ailleurs, donc c'est pas n'importe qui. L'éternel évadé, il s'agissait de Bobo de Deliège. Ah, pas très connu, hein. C'est plus sorti dans les années 80, ça. Les éternelles reprises, s'agissait des Dalton. Voilà les Dalton. Puisque les 31 premiers albums de Lucky Luke, qui étaient en partie scénarisés par Goscinny, étaient chez Dupuis. D'ailleurs, Maurice a rencontré Goscinny quand ils étaient ensemble chez Dupuis. C'est là où Goscinny a dit à Maurice, tu sais, t'as tué les frères Dalton trop tôt, on va les refaire. Et c'est comme ça que sont nés Joe, Harwell, Jack
et William.
Et ensuite, au 32e tome, ils sont partis chez Dargo, qui venait de lancer justement le magazine Pilote. Le neveu cosmique de George, il s'agit de Kenna, le compagnon du Scrum Moustache. Eh oui, parce que qui dit neveu dit oncle George et tout ça. Enfin bon. 8, Butch et Chesterfield. Les tuniques bleues.
Les tuniques bleues.
Ah, ouais, c'est ça que t'as trouvé, toi.
Non. Moi, c'est le dernier que j'ai trouvé. Les tuniques bleues, j'étais là, je cherchais le mot, je connaissais. En plus, c'était un des seuls trucs que je connaissais, tu vois. Et
peut pas arriver. Bah oui, parce que s'il venait du sud, il serait
gris.
Et oui, gagné.
Ouais, gris, ouais.
Et oui, bien sûr. Et enfin, l'aventurier journaliste de chez Le Lombard. Et ben, il s'agit.
Faut signaler un petit.
Oui, pardon.
Ouais, petit détail hein, à propos des tuniques. Hein, si les nordistes, même les soldats, étaient habillés, tout chez les sudistes, il y avait que les officiers qui étaient plus ou moins en uniforme. Les autres, ils étaient habillés n'importe comment. Hein, parce que c'était pas vraiment une armée fédérée, quoi. On va dire. C'était plutôt des grosses bandes, quoi.
Ouais, c'était des bandes. Il n'y avait pas de réelle armée à cette époque aux États-Unis. Donc c'est ça qui. C'était des armées plus d'État que fédérales. Et enfin, donc, l'aventurier journaliste chez Le Lombard, il s'agissait de Ricochet, qui est toujours en activité après 70 albums par Albert Duchâteau, qui est toujours le scénariste, ultra prolifique, qui n'arrête pas, et donc, bon, c'est pas comme Tintin, quoi.
Ah ouais, mais Ricochet, il est meilleur que Tintin, de toute façon, ça y a pas.
Ah oui, c'est largement
ça,
plus drôle, je trouve.
C'est à fond les manettes, tu le vois dans une voiture attachée. Par une camisole de force, la voiture, une décapotable, est en train de dévaler une pente et au bout, il y a le ravin. Et ben, avec la camisole, il arrive avec ses dents à saisir l'allume-cigare et avec l'allume-cigare, il arrive à cramer les lacets qui maintiennent la truc et à sauter de la voiture avant que la voiture s'effondre dans le ravin. Ça, tu le verras jamais dans Tintin.
Tintin, il sera sauvé par Milou.
Oui. Enfin, ouais. si Milou n'a pas bu ou s'il n'y a pas un démon qui est passé.
Non, ou par la voile du bateau du capitaine Haddock qui se trouve juste en bas.
Tout ça pour dire que si vous l'avez trouvé trop difficile, eh ben pensez au quiz que fera Thomas.
Ouais, je vais vous soigner sur le cinéma asiatique.
Eh ben d'un autre côté.
Et ouais, parce qu'on a un peu peur avec Xavier parce qu'il y a du sport qui est capable de nous pendre un quiz sur les. Sur les seconds couteaux des caméos de 12e minute des séries anglaises des années 70.
Là, ça fera un peu peur, quoi, je crois.
Mais si, souvenez-vous.
On y va avec la bande dessinée. Je veux dire avec les chroniques cette fois-ci.
Comme ça, vous pourrez répondre au prochain quiz. Ouais,
Mike Kunkel, Hero Bear and the Kid. Le premier tome s'appelle L'Héritage. Je viens de sortir chez un nouvel éditeur qui s'appelle V2O. C'est un comics où un nounours en peluche se transforme en un gigantesque ours polaire super-héros. Oh, ça vous fait tout de suite penser à Calvin et Hobbes, hein. Pourtant, ça n'a strictement rien à voir. Mike Kunkel est au contraire plus proche de la BD franco-belge plutôt que du strip de quotidien comme était Calvin et Hobbes. Un album, ça donne le temps de poser les personnages, de transporter les émotions en longueur, de réellement amener une narration. Et dans ce cas, c'est l'histoire de Tyler qui prend le temps d'installer. L'histoire d'un jeune garçon de 10 ans, fier, rêveur, et qui commence au début de l'histoire par une grande peine. Son grand-père vient de mourir. Et la première intense émotion, c'est l'enterrement, justement, de ce grand-père. L'aïeul, tant regretté, lui laisse en héritage une montre à gousset, cassée, et un ours en peluche. En charmante attention, mais pas vraiment de son âge, quoi. Avec sa famille, il déménage donc dans l'espèce de manoir où habitait son grand-père, avec son maître, avec son majordome et tout ça. Ce qui veut dire nouveau voisin, nouvelle école, nouveaux camarades. Il arrivera à se mettre à dos la mauvaise graine de la classe et à paraître totalement ridicule devant la fille qui lui fait tourner la tête. La vie normale d'un gamin en primaire, quoi. Si, pour le tourmenter, son infernale petite sœur ne lui avait pas amené la peluche de son grand-père à l'école. Dommage. Pourtant, cette peluche a un secret. C'est un super-héros qui sommeille en lui et qui ne demande qu'à aider le petit Tyler pour en faire un justicier. Là, on se dit, c'est encore du délire de gamin, comme pour le Hobbes en peluche de Calvin, voyait comme un tigre mangeur d'hommes. Ben non, Tyler a beau se pincer, c'est vrai. C'est vrai. C'est un ours. Et il a une cape dans le dos. Drôle d'héritage, merci papy. On le voit de suite par le dessin tout en mouvement, le look très particulier hérité de ses précédents employeurs. Michael Kull vient du monde de l'animation, il est passé par Disney, il est passé par Warner Bros, il est passé par pas mal de fabricants de séries télé pour les chaînes d'animation, et il en a parfaitement retenu les leçons. Quant à son histoire, elle veut faire replonger en enfance, rappeler aux adultes leurs rêves perdus, illuminer les yeux des enfants. Il y arrive incroyablement bien et cela lui a valu pour sa série The Eisner Awards en 2002 et en 2003. Hero Bear and the Kid est une série riche et dense qui mélange des genres trop cloisonnés et le fait avec brio. C'est le livre à faire lire aux enfants. Michael Kull, Hero Bear and the Kid, le premier tome s'appelle Héritage. Et donc c'est chez un nouvel éditeur en France, il s'appelle V2O. Thomas peut-être
Non, moi j'aime bien le look, enfin déjà le dessin et le look du nounours super-héros. Je trouve qu'il a une belle gueule. Il est rigolo. Je te dirai pas d'ailleurs que je te taxerai la BD, on n'a plus le droit de le dire à l'antenne.
D'accord, perdu pour toi. Oui. Frédéric Brémaud au scénario, Bruno Duhamel au scénario aussi, Jean-Emmanuel Vermont-Desroches au dessin, c'est Butch Cassidy. Le premier tome s'appelle Walnut Grave, c'est dans la collection Equinox chez Vent d'Ouest. Et c'est sur la côte ouest, à New York, que commence l'histoire dans la dernière partie du 19e siècle. Un pays qui est en plein essor, stimulé par l'esprit des pionniers et la colonisation des très vastes territoires de l'ouest. Butch Cassidy, c'est le nom d'un célèbre hors-la-loi qui profite justement de cette civilisation incomplète pour piller, violer et tuer. Mais dans l'album, Butch Cassidy, ben, c'est le nom d'un neveu du repris de justice qui vit à New York. Et ce jeune homme est jugé difficile par ses parents qui le font suivre par un institut spécialisé. Oui, parce que New York est déjà une ville bien civilisée. Lequel établissement pense que le grand air fera le plus grand bien à certains gamins turbulents. C'est ainsi que Butch et Willard, Sugar et Edgar se retrouvent dans un stage de réinsertion sociale pour 3 mois dans une ferme à l'ouest. Et ça commence très mal hein, dans le train par une attaque d'Indiens qui capture Willard. Enfin, vous voyez, les Apaches et toutes les compagnies, les 3 autres débarquent dans une ferme qui est tout sauf tranquille, et pire que tout, Butch a perdu sa montre au poker et doit la récupérer. Je ne pense pas que c'était vraiment prévu au programme de leur thérapie. C'est une histoire bondissante, rebondissante et abri d'abattu, c'est un western complètement disjoncté, genre Terence Hill, tu vois, qui rencontre les petites canailles. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ces petites canailles, du sport lui, il connaît forcément.
Ouais, je suppose. Ouais, ouais.
C'est la bande de gamins, tu sais, complètement démurés, qui ont leur cabane dans un terrain vague. C'est une vieille série des années 20 qui a été reprise plusieurs fois au cinéma.
Ah ouais, non, moi je suis plus dans le récent là, genre Razmoket et trucs comme ça.
Bon, d'accord, ok. Bon, bref, tout ça pour dire que dans Butch Cassidy, eh ben, on rigole vraiment et on retrouve avec bonheur tout ce qui fait la mythologie de l'Ouest. Les trésors, les duels, les bagarres, les familles tarées, les Apaches sur le sentier de la guerre. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Ben, Jean-Emmanuel Vermont-Desroches, avant de venir s'installer à Toulouse, participa au projet Coconino World à Angoulême et aussi à Café Creed. Coconino World, je vous invite à réécouter l'émission de la semaine dernière, puisque donc on avait passé en interview Giuseppe et... on avait passé justement 2 des personnes de Coconino justement pour parler de leur site. Et on y retrouve pas mal justement cette graphie, ce dessin qui est un peu, je dirais, proche de l'illustration et tout ça. Et accessoirement, Jean-Emmanuel Vermont-Desroches, eh ben, il est en dédicace aujourd'hui à la librairie Terre de Légende, rue Gambetta. Et ils l'ont rencontré car il commence ici peut-être une très grande série humoristique après avoir participé à Choco Creed, Café Creed. Eh ben, on a peut-être quelque chose qui est franchement intéressant. Voilà. Frédéric Brémaud, Bruno Duhamel au scénario, Jean-Emmanuel Vermont-Desroches au dessin, Butch Cassidy, Walnut Grave, c'est dans la collection Equinox chez Vent d'Ouest. Midi 29 minutes et 50 secondes sur Radio FMR et c'est l'heure de...
Du cinéma ?
Non, je passe d'abord à...
La pub.
Oui, mais justement, je grille la priorité à la pub. Là, tant pis, je passe une illustration musicale. Umberto Estrada, Como quien pierde una estrella.
Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito.
Éphémère la pub.
Non, le cultissime groupe Les Bêtes n'avait pas arrêté. Il préparait simplement le plus colossal spectacle jamais conçu. Peter Jackson les voulait pourtant, mais pour leur public chéri, ils ont préféré rester à Toulouse et vous offrir ce merveilleux spectacle. Le Seigneur des Animaux. La légendaire trilogie complète, réunie dans une seule et unique superproduction titanesque aux moyens démesurés. La légende des bêtes revient enfin dans Le Seigneur des Animaux. Jeudi 13 avril 2006 à 20h30 au Vent du Sud. 5 euros et un os.
Le trésor, mon précieux, ils me l'ont volé.
Bonjour, gay garçon. Oh, toi, ce soir, je sens que tu n'as pas envie d'un simple plan drague. Ouh, c'est une grosse bite que tu veux, genre des monte-pneus. Alors, envoie vite Chibre au Nazi-Nazi-Dis pour rencontrer des tas de gays garçons qui ont comme une bite, mais en plus grand. Ouh, t'oublie pas, hein. Une bonne bite, c'est avec Chibre au Nazi-Nazi-Dis. Grâce à Chibre, tu vas enfin pouvoir te faire vivre
ah ouais,
la rondelle et...
Je vois ce que c'est ton métier.
Mais qu'est-ce que tu fais là, toi?
C'est qui celui-là, maintenant, là? Monsieur, vous n'avez rien à faire ici, là.
En fait, tu me dis que t'es comédienne, mais ton boulot, c'est faire la pute, quoi.
Non mais attends, chérie, je peux t'expliquer, là.
J'hallucine, là, c'est quoi, là? On travaille, là. Les scènes de ménage, c'est dehors, là, hein.
Tu m'expliques rien du tout, t'as ta valise devant la porte ce soir, et puis c'est tout.
Oui, bah c'est facile de dire ça, hein, alors que t'as passé un lit avec Renato la dernière fois. Moi, je commence à en avoir jusque-là,
ouais, hein, j'en peux plus, là.
Voilà, enfin, un joli poisson d'avril et du sport se taille en plein milieu.
C'est vraiment n'importe quoi, ces pubs.
D'accord, eh ben, on saluera les tétas, la tata de la place Clichy, les tatas de la place Clichy une autre fois.
Ouais.
Thomas, cinéma.
Allez, jingle ? Non ?
D'accord, ok, 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 ok.
C'était quoi cette musique? Je me suis toujours demandé.
C'est l'introduction de Laïbar Opus Dei. Life is life.
Ah, la 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 la. Ok, donc on part sur autre chose avec le film Renaissance qui est sorti. Oula, ça fait moins de 10 jours, je pense, même 2 semaines.
C'est pas une sortie technique.
Hein. Non. Alors, il s'agit d'un film français d'animation 3D en noir et blanc. Un film extrêmement graphique réalisé par Christian Volkmann, dont c'est le premier long métrage. L'action se passe à Paris en 2054. Le flic Barthélémy Carras, spécialiste des enlèvements, est chargé de retrouver Ilona Tassouyev, brillante scientifique, travaillant sur un projet top secret pour la firme Tentaculaire Avalon, qui fait dans les produits de beauté miracle. Sauf que dans cette affaire, les enculés ne sont peut-être pas ceux qu'on croit. voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le film? D'abord, on va être impressionné par le visuel, le rendu noir et blanc, très très pur, avec pas de dégradé, juste du noir, des formes noires et des formes blanches évoquent inévitablement Sin City. Hein. C'est-à-dire, il y a pas d'ortier, Sin City de Frank Miller, la BD. Ce concept est même exploité jusque dans le scénario. Par exemple, on a une scène où il y a une fille qui va se faire pécho dans un, capturer dans un laboratoire, et il y a une mesure qui est prise, c'est qu'ils éteignent toutes les lumières, donc tu as du noir avec juste des lampes et des mecs avec des lunettes. Et c'est justement, ils exploitent le contraste noir et blanc juste dans la mise en scène, et ça c'est pas mal exploité justement.
Ça rappelle un peu Peur du Noir, le film.
Voilà, mais j'allais y revenir après.
Ah pardon.
Et finalement, dans la mise en scène, les scènes les plus effrayantes et les plus oppressantes sont pas celles dans le noir, mais plutôt celles qui sont à dominante blanche avec un éclairage très très poussé, qui sont justement les scènes où la scientifique est détenue dans sa cellule qui est absolument toute blanche. Ça c'est encore une fois un bon parti pris dans la mise en scène. On peut aussi parler de la technique en 3D puisque c'est un film en 3D. La technique utilisée cette fois, c'est la motion capture, donc ce sont des comédiens qui sont bardés de capteurs enregistrés par un ordinateur et qui bougent sans se soucier d'axe de caméra, de maquillage ou de coiffure ou même de vêtements. C'est ça qui permet une énorme liberté, sauf que par rapport à d'autres films qui utilisent cet outil-là ou même les jeux vidéo, cette fois-là les acteurs ont été équipés de lunettes très spéciales pour enregistrer les mouvements des paupières et des yeux. C'est-à-dire qu'on a on a plus le regard vide de par exemple les Final Fantasy, les créatures de l'esprit, c'était vraiment, on avait l'impression d'avoir des robots. Là, il y a le regard, l'intensité du regard des comédiens qui est également retranscrit, et ça permet justement d'adhérer encore un peu plus au personnage, et on a vraiment l'impression d'avoir quasiment un film avec
et
des
vrais acteurs. Et puis il y a tous les vrais mouvements du visage, parce que c'est oui. Vrai que ce que l'on avait reproché, si je me souviens bien, aux créatures de l'esprit, c'est qu'il n'y avait pas le moki-moki, le clignement d'yeux et tout ça.
Oui, oui.
C'était assez statique. Est-ce que là, de ce que j'ai vu dans les trailers, il y a vraiment des sensations
oui,
assez
oui, étonnantes. Bah, tu vois les plissures, les petites rides qui bougent en même temps que l'œil tourne, c'est vraiment assez saisissant.
Il faut savoir que techniquement, c'est le plus dur en infographie animée, c'est pas les os ou la peau, c'est les muscles eux-mêmes, c'est justement tout ce qui fait que la peau a des reliefs et tout ça.
Oui.
Hein. Voilà.
quand tu bouges ton visage vers la droite, il faut que tout le reste du visage suive, évidemment. On peut parler aussi des décors, puisque ça se passe dans un Paris dans 50 ans. Et là, plutôt que de choisir le parti pris de montrer un Paris qui s'est levé vers le haut et qui s'est étendu géographiquement, eh ben ils se sont dit, tiens, les architectes de Paris, ils ont creusé pour justement gagner de la place.
Ou peut-être tout simplement parce que la loi qui a interdit de construire à Paris sur plus de 50 mètres de haut, je crois, elle a peut-être pas été abrogée, tout simplement.
Peut-être. En tout cas, ça donne des décors absolument dantesques, avec des multiples plateformes, des étages à n'en plus finir, et surtout des plateformes à demi-transparentes. C'est le seul usage dans le film du gris, parce que sans les transparences, et là on peut avoir des poursuites et des scènes d'action qui se déroulent sur plusieurs niveaux, et le mec qui est au troisième étage peut voir justement ce qui se passe en dessous. D'ailleurs, si vous allez voir le film, vous verrez comment a été réutilisé l'arche de la défense. Assez intéressant, oui. Par contre, je vais poser un petit bémol, c'est que on a une réalisation dans l'ensemble plutôt molle, en fait, puisque justement c'est un polar, on s'attend à des scènes d'action assez poussées, on va dire, puisque de toute façon, quand tu sors un film aujourd'hui, il faut pas justement sortir un film, il faut justement prendre en compte ce qui s'est fait dans le genre aussi à côté. Et évidemment, il y a Matrix qui est passé par là, et la scène de poursuite sur l'autoroute de 20 minutes, voilà, les mecs, les spectateurs, ils l'ont en tête. Et là, franchement, il y a une poursuite en voiture. Elle est pas mauvaise, mais on aurait aimé qu'elle se déroule, qu'elle soit un peu plus étalée dans le temps, quoi. Et on a aussi dans le scénario des astuces vues et revues, genre le mec, oui, je vous annonce que je vais être papa. Oh merde, il va m'arriver une couille à la fin du film. C'est sûrement que ça tombe. Bah ça, c'est trop con.
Ah ouais, ça c'est dommage.
Tu sais, comme dans les films de guerre, il y a le mec qui montre la photo de sa fille, et puis oh merde, une bombe. Tu diras à ma femme
de
que je l'aime.
Tu vas crever.
Voilà. Non, tu lui diras toi-même. Oh, non. Voilà. Donc ça c'est un peu dommage. Et c'est un peu le petit bémol qu'on pouvait apporter au film, mais au final on a quand même une heureuse surprise, parce que personnellement moi je m'attendais à bien pire. Ouais, ça va être encore une démo pour un nouvel outil 3D. De toute façon, aujourd'hui en France on a que des techniciens, on n'a pas d'auteur. Et là Paris aux deux tiers réussi, je vais dire. La fin est vraiment surprenante. Donc ça c'est aussi l'énorme qualité du film, c'est que justement tu sors de là, t'es ah ouais. Et il nous manque juste un petit visionnaire, une espèce de Mamoru Shihano, tu vois, qui a une patte d'auteur, qui laisse des scènes contemplatives avec une vraie mélodie derrière, tu vois.
Pour, et un chien.
Non, le basset, on va le mettre de côté parce qu'il est un peu énervant avec ça. Et alors, oui, tu parlais de Peur du Noir tout à l'heure. On peut raisonnablement dire que ce film s'inscrit dans la droite lignée des films graphiques en noir et blanc. Il y a eu Sin City, maintenant Renaissance, et il y a également le film collectif d'auteurs qui va le film Peur du Noir, qui va bientôt sortir l'hiver 2006,
mené par Étienne Robial, et dans lequel on retrouve
Ouais, moi j'ai lu plusieurs trucs sur Renaissance, et au niveau technique, bon, ils s'accordaient à peu près tous à dire que bon, Sin City à côté, c'était un peu ledge, quoi.
C'est sûr. C'est sûr.
Tiens, que Renaissance, ça a mis 5 ans quand même. Les mecs, ils ont mis 5 ans à faire le film.
Ils ont commencé à faire des réunions pour savoir de quoi ils allaient parler en 99.
Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est un peu plus. Ouais.
Ils ont trouvé les financements en 2003. Il y a Disney qui a dit OK, banco, on va s'occuper de la diffusion du film aux États-Unis. On y croit à dents. C'est la première fois qu'ils s'impliquent dans la distribution. Oui. La distribution d'un film européen. Puisque c'est quand même ultra français, Paris, etc. Tiens, du sport, peut-être le dossier de presse juste ici, si tu veux voir.
Peut-être qu'après s'être mis à dos, comment ça s'appelle ? Pas Buena Vista, l'autre branche là.
Columbia, Pixar ?
Non, la branche qui fait des Miramax.
Miramax.
Miramax. Peut-être qu'ils avaient besoin de récupérer vite une notoriété.
Ouais, il faut souligner aussi que le scénario et les dialogues, hein, c'est quand même des cadors. Hein, c'est Jean-Bernard Pouilly dont on a parlé à propos de Sable Noir. Hein.
Voilà, un Toulousain encore.
Et à côté de lui, Patrick Reynal. Patrick Reynal qui n'est ni plus ni moins un écrivain de polar français bien connu, mais qui a dirigé la série noire jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, jusqu'à il y a deux ans, je crois, ou trois ans, il s'est tiré. Bon, c'est un petit peu changé, mais il a un petit peu renouvelé le genre, on va dire, au niveau de la collection série noire hein, de chez Gallimard, hein, qu'il a dirigé depuis la fin des années 80, me semble-t-il, jusqu'à il y a deux, trois ans.
Il a pas participé au Poulpe, lui aussi?
Bien sûr.
Mais qui il a pas participé au Poulpe?
Moi.
Voilà, Renaissance, le film de Christian Volkmann, film français en 3D, graphique à l'extrême en noir et blanc, qui est sorti, qui est toujours à l'affiche. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une expression que j'emploie souvent, mais vous pouvez y aller, voilà, dans le noir.
Midi 45, les Malpolis, leur nouvel album. La fin du retour de la chanson française.
Les preneurs d'otages avaient pour projet de se dissimuler en soute à bagages avant le décollage d'un vol long courrier et de le détourner pendant son voyage. Installés dans leur cachette, les terroristes s'apprêtent à faire péter en plein ciel une bombe démentielle. Ce qu'on ignore encore, c'est que les hôtesses en ont plein les fesses. Leur boulot leur sort par les yeux alors. La grève est votée et l'avion cloué sur l'aéroport. Pendant ce temps, dans leur cachette, les kamikazes s'inquiètent. Le temps passe, ils ont le trac et leur bombe fait tic-tac. Tous les passagers sont très en colère car leurs petites affaires sont toutes chamboulées. Et pour le reportage, la télévision se plaigne qu'ils sont tous pris en otage. Pendant ce temps, en bout de piste, on se dit chez les terroristes qu'on est vraiment peu de choses. Peu après, la bombe explose. Le lendemain matin, on lira dans le journal que le mouvement social, hasard ou destin, a sauvé de la mort 36 millionnaires de la classe affaire qui en tremblent encore.
C'est ça. Alan Moore qui a dit ça ?
Ouais, Alan Moore. Ouais.
Midi 47. Supplément week-end et du sport. Et là, donc, juste après avoir passé le dernier album des Malpolis, qui se font très très rares, alors qu'ils valent le coup quand même. It's a beat, you living on the street, it's the mind's revolution. Be down, be cool, nobody's gangster fool, you got the master solution. Cause you're my man, I'm a fan.
Allez, dans la série, le mec qui fait du hip-hop que tu le crois pas et tout, parce que c'est Dean Stockwell tout simplement là.
Hein?
Là Thomas il est sur le cul. Et en fait, c'est encore plus intéressant parce que c'est tiré de l'album de la série Code Quantum, donc... C'est encore plus incroyable. C'est un hologramme qui fait du hip-hop, tu te rends compte? Un hologramme, c'est même pas un être humain.
Ouais, il aura du mal à mettre les chaînes en or. Hein. Cling. Ah mince.
Dean Stockwell, donc. Hein, je sais pas si tu connais cette série, oui. Code Quantum.
Oh, oui, oui. Et attends, ben, tu voilà, peux remettre le son, là.
Pas de chance.
Ouais. Ah, pas de bol. Oh, on te fera une copie tout à l'heure en antenne.
Bon, tu cales l'autre pour après. Voilà, donc Dean Stockwell, c'est juste comme ça, hein, c'est pas pour vous parler de Code Quantum.
C'est vrai que quand on l'imagine chanter, on a tous en mémoire le quand il chante en playback sur le film de Lynch, Blue Velvet.
Ouais, ouais, ouais.
Blue Moon, I'll keep a shining bright.
Là, c'est Scott Bakula qui chante. C'est-à-dire le héros de Code Quantum. Et actuellement de la série Star Trek Enterprise.
Ah ouais, il est dedans, je savais pas.
Si, si, bah c'est lui, hein, c'est lui le patron. Hein.
D'accord.
Ok. Alors, de la télé. Ouais, laisse en musique de fond quand même. Hein. De la télé avec le grand retour sur nos écrans de ton copain de toujours, Jean-Marc Morandini.
Ah, et enfin.
Eh ouais, enfin, sur Direct 8, on vous en avait parlé.
Blog. Il a fermé son blog.
Non, pas encore. Ouais, non.
Si, si, il l'a fermé tout simplement parce qu'il a trouvé que les mecs de Libération étaient de très mauvaise foi.
Ouais, mais bon, c'est une pleureuse ce mec, hein, de toute façon, quoi.
Ouais, les mecs de Libé aussi, hein, ils l'ont mauvaise parce qu'ils se sont fait plusieurs fois bananer sur des soi-disant scoops. Hein. On va pas revenir là-dessus.
Ouais, non, mais enfin bon, ça.
Ça ne nous concerne pas, on s'en parle.
C'est des amusailles de gosses, hein, de toute façon, quoi.
C'est Paris, hein, c'est Paris.
Voilà, c'est ça, hein, c'est un petit peu microcosmique. Morandini, donc, qui est à l'affiche à fond les manettes parce qu'on va le voir tous les jours à partir de lundi sur Direct 8. La chaîne de Bolloré, là, tu sais, Direct 8, une des seules chaînes que j'ai inscrit sur un truc que normalement je devrais regarder, mais je peux pas la voir, je sais pas pourquoi, c'est noir. Que dalle, toutes les autres de la TNT, je les ai, mais Direct 8, je sais pas quoi. De temps en temps, on la reçoit, enfin bon, c'est assez bizarre comme situation. Ben bon, tant pis, hein, on n'y perd pas tellement au change. Hein, bon, se taper 3 heures de merde pour avoir peut-être 5 minutes de culte, quoi, c'est ça vaut pas non, le coup quoi,
c'est,
je trouve.
C'est du TLT de luxe, c'est ce que j'avais dit.
Ouais, à peine. Hein.
C'est juste qu'il y a pas, en ce moment, il y a toujours pas de pub dessus, hein, c'est tout.
Si, ça va attaquer. Ça va attaquer la pub. Oui, mais... Bolloré l'a annoncé, il va y avoir de la pub parce que pour l'instant Direct 8 est une chaîne en direct entièrement et sans publicité, il y a pas un pet de publicité. Mais par contre, bon, c'est des fois assez rigolo. Hein, ouais, assez rigolo. Revenons donc à ce mec Morandini qui va donc être à l'antenne. Et tous les jours, en plus, c'est de l'Access Prime Time avant le journal de 20h sur Direct 8, c'est-à-dire 19h, 20h. Une émission quotidienne. Et c'est lui qui parle, hein, un vrai pari. Une émission quotidienne sur la télé qui ne sera pas la copie conforme de ce que je fais à la radio. Ben, il y a intérêt quand même, quoi, hein, sinon il y a un petit peu tromperie, quoi, faut pas déconner. Hein. Il y aura du reportage, de l'enquête, du débat, de l'affrontement et pas d'invité en plateau, contrairement à ce que je fais le matin. En concurrence avec un certain Julien Courbet sur RTL. Enfin, ils font pas la même chose. Hein. Enfin, bon, ils sont sur la même plage horaire à la radio. Hein, et, voilà. C'est des plages horaires qui est en termes d'audience radiophonique et en termes de pub, comparativement comme à la télé pour les pubs avant les films du dimanche soir, hein, qui coûtent le plus cher, ou avant ou après le journal.
Ça commence à être le creux, hein. Ça remonte à midi. Hein, mais...
Ouais, non, mais ils sont de 10h à midi, hein, genre, c'est
oui,
ils sont
mais
dedans,
après
quoi,
9
donc,
après
ça marche
9 heures,
très fort. Mais Morandini se fait rétamer à tous les coups par Courbet, de toute façon. Ah bah oui, quand même.
Ah oui, Courbet, c'est.
Vous écoutez Courbet.
Vous pouvez être arnaqué, je suis là pour vous aider. Alors forcément, tout le monde suit, c'est du populisme.
C'est populisme. À fond c'est les mallettes, que c'est normal que ça marche à fond.
Mais il
les
se présente en 2007.
Alors, pas d'invité sur plateau. La vraie particularité de ce rendez-vous, c'est la présence d'un panel symbolique de 6 à 10 personnes. Là, déjà, sourire banane, quoi.
Surtout sur Paris.
La ménagère de moins de 50 ans, l'ado, le senior, qui viendra donner son avis sur la télé. Voilà. Tout simplement.
Le café du commerce.
Bah ouais. Hein, on fait pareil que Courbet, hein, c'est-à-dire que bon, bah, on va exploiter les rancœurs des petites gens et tout, et puis bon, bien les détourner pour que ça marche et que ça fasse de l'audience, bien sûr, aussi un petit peu.
Moi, la télé, j'aime pas ça, c'est de la merde.
Et Morandini qui conclut cette interview par une brillante idée dont il est à l'origine, hein, c'est de demander aux chaînes de diffuser les séries dans l'ordre.
Dans l'ordre, putain.
Je suis surpris de voir l'ampleur que prend la pétition lancée sur mon blog. Plus de 20 000 signatures, alors nous imprimons. Nous interpellons les patrons des chaînes pour qu'ils respectent l'ordre des séries et prennent des engagements précis. TF1 s'est mise à diffuser les experts dans l'ordre.
Ils l'ont fait qu'une fois.
Et c'est bien. Merci Jean-Marc Morandini.
C'est pitoyable.
Et dans l'hebdo télé auquel je suis abonné, la même semaine, on a droit à Bataille et Fontaine, l'interview qui tue.
Ah oui.
L'interview qui tue à propos d'une nouvelle mission qui va s'appeler Utile. Alors, il faut quand même rappeler que Bataille et Fontaine ont été découverts à la télé sur Canal Jimmy dans une émission qui s'appelait Les Rebelles, je crois, tout simplement, un truc comme ça, quoi. Une émission assez intéressante, hein, dans laquelle il dénonçait un petit peu, comme un certain Jean-Pierre Pernaut, certains abus de l'administration, mais aussi des délires, quoi, des trucs complètement farfelus. C'était vachement bien, c'était recherché, les sujets étaient divers et tout. Il faisait preuve d'une certaine causticité agréable. Bref, ils étaient tout à fait présentables. Et à partir du moment où ils sont passés sur TF1, je veux te dire, mais méconnaissable, mec, mais méconnaissable, quoi. Et alors là, la palme quand même, hein, c'est quand même la citation de la semaine dans l'interview de Bataille et Fontaine à propos du CPE. Bah, ça nous interpelle, hein, tout le monde, hein, le CPE. Alors, à la question, quel est votre sentiment sur la France d'aujourd'hui, les manifs anti-CPE, cette fracture sociale qui existe? Et alors, c'est Bataille qui répond. Je pars du principe que le CPE est mieux qu'un CDD de 3 mois. En 83, une fois mes études achevées, le vieux con qui parle déjà, tu vois. En plus, en 83, il y a un vieux con, jeune con. Ouais. J'aurais tout accepté pour trouver du boulot. Il faut tenter, c'est le chef d'entreprise qui parle. La pire des choses est l'immobilisme. La politique sociale ne peut être figée. Et pourtant, j'ai des valeurs de gauche. Le CPE est plutôt une bonne chose, mais il a été mal communiqué. Bon, voilà, on n'en dira pas plus. Monsieur Bataille, on en dira pas plus.
Il est de gauche par rapport aux autres journalistes de TF1, je suppose.
Ouais. ouais. Ça s'est pas vu, hein, sur TF1. Ça s'est pas tellement vu sur TF1. On va changer radicalement de sujet pour un sujet qui fâche, mais pas du tout, mais qui va nous détendre tout le week-end. Mais tout le week-end, imaginez un week-end.
Oh là, un sujet qui fâche.
Oh oui.
Professionnel jusqu'au bout du sport, boîte de l'eau pendant le jingle.
Imaginez-vous un week-end tout bleu avec des petits chapeaux blancs. Les Schtroumpfs sont là depuis ce matin 6h30 sur Télétoon et tout le week-end, hein, je dis bien de 6h30 le matin jusqu'au soir quand tu couches tes gosses et puis qu'ils n'ont rien à foutre dans la télé après 8h, de toute façon, faut pas déconner, hein. Et même une heure de télé par jour, et c'est déjà beaucoup, bah ça suffit. Demain, pareil, à partir de 6h30 jusqu'à tard le soir, du Schtroumpf en vue, voilà, l'intégrale pratiquement de tous les dessins animés à propos des Schtroumpfs. Ça y est, tu les as trouvés?
Ouais!
Ah, quand même! Je ne pouvais plus de me lire en attendant. Mais là, tu vas mourir. Là. Parce que...
C'est le premier générique, mais il est plus utilisé celui-là maintenant.
Oh, ben attends, c'est pas grave. Ça nous fait plaisir quand même.
Oh, bah, si.
Dans un registre radicalement opposé, quand même, c'est ce soir, et il fallait quand même que j'en parle parce que c'est un des épisodes cultes dans la série des Columbo. Qui est bien sûr diffusé sur TV Braise, hein, pour chercher où voir Columbo, vous demandez TV Braise, hein, la chaîne de Pratique Le Lait. Pas de problème, spécialiste des rediffs des vieilles séries américaines qu'on a pu voir pratiquement en intégrale, dans le désordre bien sûr, sur TF1 ou quand ça s'appelait encore La Une,
L'Amour du Risque, hein,
mais également Perry Mason, enfin toutes ces séries là, tout, MacGyver, toute la tapée, Rick Hunter et tout. En ce moment ils font Rick Hunter aussi l'après-midi, quoi. La Columbo, c'est quand même le soir, ce soir à 20h50 donc, et c'est un des épisodes marquants parce que c'est l'épisode qui s'appelle L'enterrement de Madame Columbo.
Ah oui.
Elle a été assassinée et tout. Et
sur la fin, on apprend qu'elle n'a pas été assassinée.
Mais il fallait pas le dire en douille.
Il est con.
Mais quel crétin.
Et là, Peter Falk, il n'est pas content du tout. Mais alors,
vraiment pas content. Tu es spolié l'épisode là, franchement.
Bon, on l'a déjà vu trois fois.
Ouais, ça date de 89. Et déjà en 89, c'est Vince McAvity qui a signé après tous les téléfilms Columbo jusqu'au. Plus récent là, qui date de 2004, je crois. Hein, je vous en avais parlé il y a pas si longtemps que ça. Et à ses côtés, il y a Ellen Shaver. En plus, elle a joué dans La Couleur de l'argent et dans une autre série, mais là je m'en souviens pas. Et là, je suis impardonnable, je vais me faire taper sur la gueule en rentrant. Également, la présence d'un acteur qu'on voit comme acteur principal dans la série Ted Wood en ce moment sur Canal+, à savoir Ian McShane, qui joue dans cet épisode de Columbo qui s'appelle L'enterrement de Madame Columbo. Sinon, du nouveau, du tout récent, et c'est con parce que vous l'avez loupé, c'était juste ce matin là, à 11h40 du matin. Alors là, les mecs de TF6, chapeau. Alors là, un horaire comme ça, pas rediffusé, hein, j'ai bien vérifié toute la semaine, hein, c'est pas rediffusé.
C'est rageant.
Hein. C'est rageant quand même, ça s'appelle Les Chroniques du Mystère, c'est complètement inédit. Hein, le titre anglais original, c'est The Chronicle. une série de 22 épisodes qui avait été diffusée sur la série Sci-Fi Channel. Basé sur les œuvres du romancier Mark Sumner, hein, qui a sorti une série de fantastiques assez connue qui s'appelle News from the Edge, le coin, hein, pas Edge le temps, l'âge. Hein,
the compris? Edge de YouTube, quoi.
Voilà, voilà. Le guitariste de YouTube. Non, et ça c'est la messagerie, laisse tomber, quoi. Avec donc diffusé, c'est ce matin sur TF6 à 11h40 et uniquement le samedi à 11h40 les chroniques du mystère. Avec ce matin, donc c'était le vampire de Brooklyn. Voilà, un petit intermède musical là et puis on pourra continuer.
Oui, parce que je suppose que Madame Colombo a des choses à dire. De ce répit, de ce répit où du sport est en train de se faire fesser avec une pelle pour vous dire donc tout à l'heure j'ai parlé de la bande dessinée Walnut Grove chez Bande Ouest, dessinée par Jean-Emmanuel Vermeaux des Roches, et est en dédicace tout à l'heure à partir de 15h30 à la librairie Terre de Légende. Et si vous cherchez une soirée ce soir, une soirée hip-hop avec Heavy White Sounds Party 2, c'est à partir de 22h30 et c'est au PV.
Ouais, c'était mon oreillette et il vient de me dire que en fait Helen Shaver on la connaît aussi parce qu'elle a joué dans une série dans une série qui s'appelle Poltergeist, celle dont je me rappelais pas déjà la semaine dernière avec des Redolines dedans là, tu sais quoi.
Tu vas devoir refaire la cuisine, la vaisselle et le repassage voilà. Je sens ce week-end.
Je parle de Sci-Fi Channel parce que lundi à propos de The Chronicle. Eh bien aussi parce que sur Sci-Fi France, c'est-à-dire Sci-Fi Channel France, lundi à 20h50, avant on propose la rediffusion d'une série qui a, on va dire, été assez intéressante hein, pour le style, hein, produite quand même par un grand nom, un mec qui est devenu vachement connu parce que il a fait deux super blockbusters et que ça marche à fond les manettes, c'est Sam Raimi. American Gothic, c'est le nom de la série, avec Gary Cole et Lucas Black. Et ce qui est intéressant également dans la rediffusion de cette série, c'est que sur Sci-Fi Channel, il y a la version multilingue, donc la possibilité de voir soit en version originale, soit en version française, avec à partir de lundi bien deux épisodes, dont le pilote qui s'appelle La Vérité. Et le deuxième épisode, l'arbre de résurrection. Justement, je me demandais s'il y avait un variateur, parce que c'était un peu l'edge au niveau de...
Je viens de fouetter l'assistant éclairagiste. Ouais, voilà. Franchement, c'est pour ceux qui n'ont pas la couleur. Hein. On fait la télé aussi sur notre plateau, et un plateau qui est peint d'ailleurs à la bombe, c'est pas une très bonne idée. Hein,
non, mais enfin, moi, laisse tomber, quoi. C'est pas la peine. le document... Excusez-moi. Le documentaire de la semaine, quand même, c'est une rediff. Mais c'est pratiquement un polar ce truc, ça s'appelle Un coupable idéal de Jean-Xavier de Lestrade, ça date de 2001, et ça a obtenu l'Oscar le vrai hein, là-bas là chez les autres là-bas du 2002 du meilleur documentaire, c'est l'histoire en Floride. Et en plus de Lestrade quand il est allé tourner ce truc là, il pensait pas du tout tourner ce genre de documentaire là. Mais il est tombé sur cette histoire et ça l'a tellement botté qu'il a suivi tout le procès. En fait, c'est l'histoire d'un jeune noir, hein, Brenton Butler, qui est accusé du meurtre d'une femme hein, par le mari qui est juste à côté, qui dit ouais c'est un black, je l'ai reconnu, c'est lui quoi. Et à partir de là, bon bah ok, il va y avoir ce procès et on va suivre le procès aux côtés de l'avocat commis d'office, qui s'appelle Patrick McGuinness, qui est un mec super haut en couleur, mais vachement efficace. Et là, on se rend vraiment compte de ce qui se passe durant un procès, du travail de l'avocat, des flics. Et au départ, c'est le procès du black, quoi. C'est-à-dire que bon, bah tout l'accuse. Hein, c'est dans un état du sud, c'est en Floride. Enfin bon,
il est mal tombé bon, là.
Il est mal tombé. En plus, il se fait la bonne femme. Elle est déjà maman. Enfin, c'est un couple du troisième âge, tu vois quoi. Donc là, bon, le mec, il a aucune chance. En plus, les flics. Ils l'ont ramassé pas loin, il y a plus ou moins des éléments concordants, enfin bref, c'est, et Patrick McGuinness, il va remonter, et le mec, en plus, a avoué, bien sûr, à un certain moment, hein, ça c'est clair, hein, de toute façon, comme dans tous les bons films polar américains, le mec, il a avoué, mais bon, au bout d'un moment,
c'est... Oui, mais c'est aussi une procédure juridique, c'est que quand tu avoues, ouais, ouais. Tu as des possibilités.
Non, parce que là, il passe en procès, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de plea bargain, hein, là, quand le procès a lieu, hein, ça veut dire que il y a pas de plea bargain, puisqu'il est jugé devant les 12 jurés, c'est bon, hein, il n'y a pas eu de marchandage, quoi. Justement, parce que Patrick McGuinness va remonter toute l'histoire et tout, et ça va se retourner contre les flics qui ont vraiment bâclé leur boulot, qui ont fait n'importe quoi et tout. Ça va être un petit peu le procès de la justice américaine et des flics de cette ville qui ont vraiment mal fait leur boulot. Et c'est un documentaire absolument exceptionnel, hein, c'est vraiment à voir, hein. C'est de l'estrade à passer, donc plusieurs mois à suivre tout ce procès et toute l'aventure avec Patrick McGuinness. Il n'y a pas que lui, il y a également l'aide, hein, la bonne femme, je crois que c'est sa femme qui lui file un coup de main et tout à McGuinness. Mais c'est le documentaire qui tue, hein, de toute façon, hein, c'est meilleur que la grosse majorité de tous les polars qui peuvent sortir actuellement, hein, je veux dire fiction. Là, c'est du réel, quoi, mais bon, c'est monté magistralement. Là, chapeau quand même. Donc c'est le dog de la semaine, et il faut quand même que je vous dise où ça passe. Ça se passe jeudi prochain sur France 2. Alors là, c'est soirée documentaire. D'abord, il y a Envoyé spécial, et ensuite à 23h, donc à partir de 23h, Un coupable idéal. Et maintenant, vite fait, à la louche comme ça, quelques petits films. Alors j'avais fait une petite série comme ça de films des polars que tu te poiles quand même vachement quand tu les regardes.
Ah yes.
Ou c'est des films que tu te poiles mais qui sont un peu polars, quoi. Il y a déjà mais bon, c'est des connus, hein. C'est que du connu, hein, généralement. Ça commence au Beauté ce soir, c'est sur TPS Home Cinéma, hein, si vous l'avez pas vu encore, honte à vous quand même, parce que c'est un très bon film des Coen Brothers. Bah, de toute façon, il n'y en a pas des mauvais des Coen Brothers, quoi.
Ah non, non.
Il
n'y
a pas de film mauvais.
Il y a des moins bons, mais il n'y a pas de mauvais.
Il y a des moins bons, mais il n'y a pas de mauvais. Là, c'est le Big Lebowski qui est...
Oh ouais!
Oh là 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 là.
Oh ouais!
Avec Jeff Bridges, hein. Oh là 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 là. Avec John Goodman. Oh là là.
Oh là, ouais.
John Turturro.
Laisse
tomber, laisse tomber.
Et un bloc-note avec un dessin obscène dessus. Mais bon.
TPS Home Cinéma ce soir à 20h45. Sinon, demain soir. Alors, celui-là, c'est moins pour faire rire, mais bon, disons, il y a une espèce d'état d'esprit là qui moi m'a fait bien marrer quand je l'ai vu. C'est Destination Graceland de Danny Lichtenstein avec Kurt Russell. De toute façon, dès qu'il y a Kurt Russell dedans, c'est un bon film pour moi.
Et puis de toute façon, dès qu'il y a un Elvis à jouer, il y a toujours comme
ouais,
ça dedans.
Ouais, en plus qu'il joue Elvis, c'est normal, hein, après son magnifique rôle dans Elvis The Movie. Kevin Costner qui est absolument excellent, hein, lui, il est pourri dans ce film qu'il en peut plus, mais il est excellent, vraiment excellent. Christian Slater, normal, et Courtney Cox qui joue une salope, quoi. C'est vraiment excellent, c'est sur TPS Star. En plus, ce qui est vachement marrant, c'est que c'est un film que j'aurais pas programmé a priori sur TPS Star un dimanche soir à 20h50, tu vois.
Ah ouais,
quand même, ouais. Ah bah ouais, quand même. Par contre, programmé à 20h50 un film comme Chopper, le film australien qui a défrayé la chronique là-bas, parce que c'est l'histoire vraie d'un tueur en série. Qui a sévi en Australie durant pas mal de temps, hein, le film d'Andrew Dominik qui date d'il y a 5 ans quand même, qui a révélé Eric Bana, qui est devenu Hulk.
Oui, Hulk et
mais autant que je me souvienne, il y a une partie de l'équipe qui est allée rencontrer le vrai truand dans la prison. C'est ça, ouais, ouais. Ça qui avait fait scandale, c'est qu'ils allaient le voir très régulièrement et tout. Ils craignaient que ça tienne à l'idolâtrie, quoi.
Ouais, mais bon, ouais. C'est quand même moins 16 et donc, de par ce fait, ça ne peut être diffusé qu'à une certaine heure, 22h30, demain soir sur 13e rue.
Bah, c'est 22h30.
Ouais, 22h30. Hein,
programme
c'est moins 16, hein, là. Attention, là. C'est du show quand même, hein. Mais ça cartonne. Je crois qu'il a obtenu un grand prix au Festival de Cognac, hein, ce film. Lundi, un film d'un mec qui a également obtenu un grand prix au Festival d'Avoriaz. Hein, c'était pour son premier film, L'Ascenseur, mais il y a vachement longtemps. Dick Maas, là, il s'agit de Issue de secours. Il est moins connu, celui-là. Hein, Dick Maas qui nous avait aussi fait Amsterdam Ned. Là, il est plus récent, celui-là. J'ai pas noté là. Mais enfin, il est vachement plus récent avec William Hurt, Jennifer Tilly et Francesca Brown. C'est lundi soir en deuxième partie de soirée sur M6. Et sinon, il y a un petit petit polar qui est pas mal, qui est vachement intéressant, un petit peu intimiste comme ça. Il y a pas mal de scènes en huis clos. On sent que c'est la patte d'un théâtre qui est derrière tout ça. C'est normal. C'est le premier film réalisé par Kevin Spacey en 97.
Ouais. Albino Alligator.
Qui s'appelle Albino Alligator, où il y a un Matt Dillon qui est excellent, vraiment excellent. Un Gary Sinise. Gary Sinise. Et Fight the Way, entre autres. Hein. C'est diffusé sur RTL9 mardi prochain à 20h50. Il y a également Sci-Fi Channel qui nous fait vendredi prochain une petite soirée Carpenter, avec deux petits Carpenter comme ça, histoire de se remettre.
Fait longtemps que je l'avais pas vu. Hein,
à 20h50, c'est Invasion Los Angeles. Et
ah ouais.
À 22h25, c'est Fog. Oh. Ouais, c'est pas mal. Hein,
et tu sais
qu'il y a
le remake qui va bientôt sortir, là. Le remake, j'ai vu le trailer, c'est naze, mais au possible.
Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux.
Et le pire, c'est qu'il y a Carpenter qui a participé au projet, il est producteur.
Je sais.
Et il a dit... Bon, tant qu'on me donne des thunes, pourquoi j'irai pas?
Thomas, t'arrêtes les poissons d'avril, là, merci.
Allez, encore des quelques films avec une thématique plus ou moins vague. Déjà, de Steven Seagal.
Ah bah il y avait déjà une team décision qui passait cette semaine.
Ah oui,
mais
attends,
il y en a encore deux autres.
Qui c'est qu'il y a dans Ultime Décision et qui est le vrai héros? Voilà, forcément.
Mais j'étais
forcément
déçu parce que je m'en souvenais pas trop. Et quand il y a Steven Seagal qui meurt, on le voit pas vraiment mourir en fait.
Bah ouais, mais bon.
Mais bon, un héros comme
il crève au début.
Mais c'est juste une silhouette, voilà.
Ouais. Et t'as vu qui joue le rôle du méchant? T'as vu qui joue le rôle du méchant?
C'est un mec des garnis, mais je sais plus qui c'était.
Mais ouais, c'est David Suchet, inspecteur détecteur
Hercule Poirot.
Facile. Steven Seagal, donc demain à 22h25, Justice sauvage, ça c'est un gros classique. John Flynn.
Fusil à pompe.
Avec suis détendu, je suis le
ouais, c'est à New York,
le calme même, ouais.
Avec en plus des gros calibres William Forsythe et Jerry Orbach. Lenny Briscoe, à l'époque, en 91, ouais, c'est sûr qu'il était encore vivant. Et c'est sûr qu'encore à l'époque, il commençait à tourner tout juste les New York District, là, tu vois, quoi. Ensuite, lundi, il y en a un autre, L'Ombre Blanche, il est un peu moins connu, là, il est déjà un peu plus fatigué, hein, le père Steven. Il date de 96, avec Keenan Ivory Wayans et Brian Cox, c'est sur TF6 lundi prochain à 20h50. Il y a également quelques petits films de Ben Stiller, un spécial Ben Stiller, c'est vendredi prochain, avec un des super rôles qu'il a eu dans sa carrière filmique, parce que bon, il a quand même fait pas mal de trucs, bon,
pas mal de merde, tu veux dire.
Non, mais bon, genre Max Pécasse à l'américaine, tu sais. Là, celui-là, il est bien, quoi, c'est Flirting with Disaster, Flirter avec les embrouilles, de David O. Russell, qui après ce film, c'était son premier film, là, en 96, le Flirting with Disaster, il nous a sorti Three Kings, les rois du désert, quand même, quoi,
ouais,
tu vois, avec une distribution qui tue. Outre Ben Stiller, il y a Patty Arquette qui joue dans une série qui s'appelle Medium maintenant, il y a T. Leoni qui avait sa propre série, Une fille à scandale, et qui est Madame Duchovny,
hein,
et il y a également Alan Alda dans ce film, Alan Alda qui était le toubib de la série MASH. Et ouais, ça passe sur vendredi prochain à 20h50 sur Ciné Comédie. Et le même soir, on va à Canal Plus, nous à Canal Plus, on va emmerder TP jusqu'au bout. On fait de la concurrence avec une soirée spéciale déconne et spéciale Ben Stiller, avec tout d'abord le film Dodgeball. Alors celui-là, il est pas mal.
Non.
Si, avec Mache Ballon Prisonnier, tout, c'est n'importe quoi, mais c'est excellent. Un film de, en plus, le mec qui a réalisé ne se prend pas pour de la merde, vu que c'est un nom à rallonge, hein, Rawson Marshall Thurber. Ça date de 2004 avec Vince Vaughn et Ben Stiller. Les deux ensemble, ça fonctionne quand même pas mal. C'est suivi à 22h20 sur Canal Plus vendredi prochain par un documentaire de Didier Alouche qui s'appelle Mafia Comédie, à propos, bah, justement, de cette espèce de forme de comédie à la American Pie, tu sais, cette nouvelle série forme de comédie qui revient un petit peu en vogue à Hollywood, suivi par un film dans le même genre de Barry Levinson, Envy, avec Ben Stiller et Jack Black, ainsi que Rachel Weisz. Et là, on rigole parce que il la voit dans Envy, puis ensuite, deux ans après, quoi, elle concourt pour l'Oscar de la meilleure actrice dans Constance Gardner, qui est pas spécialement un film rigolo, quoi. Genre, déconne à fond les manettes, tu vois. Et on termine dans le sang et, avec un seul bras. parce que Chang-Chi le voulait comme ça.
Ouais, Dieu.
Soirée Chang-Chi sur Ciné Cinéma Frisson, c'est jeudi prochain avec, en plus, il te les passe dans l'ordre, c'est ça qui est cool, à 20h45, Un seul bras, les tue à tous. Avec Jimmy Wang Yu hein, qui jouait donc le rôle titre et ciao ciao. Bon ben à la prochaine. à 22h40 la suite, pas la suite immédiate mais toujours avec Jimmy Wang Yu, c'est le bras de la vengeance qu'il a de 69. Et comme Jimmy Wang Yu, il avait vraiment marre et tout, et ça le faisait chier et tout, quoi. Chang-Chi l'emmerdait de trop. Et ben, il a pas fait La Rage du Tigre, qui est diffusé à 0h25 en 71, et c'est David Chang. David Chang qui a donc tourné dans La Rage du Tigre avec aussi Ti Long, hein, qu'on retrouve dans les 36e chambre de Charlie.
Non, pas du tout.
Non.
Non, Tilung il est pas là-dedans. Il a joué dans d'autres Chang-Chi mais pas dans la 36e chambre.
C'est deuxième erreur du sport. Ou troisième même.
Ah mais je dois confondre alors. Le chauve là, je parle du chauve.
Oui, c'est Gordon Liu.
Voilà, Gordon Liu, voilà. Excuse-moi, ouais. Erreur. Donc tout ça, donc c'est sur Ciné Cinéma Frisson. Jeudi prochain, à partir de 20h45, donc Un seul bras les tue à tous, à 22h40 le bras d'avance et à 0h25, bon le plus connu c'est La Rage du Tigre.
Générique de fin, je suppose, pour du sport qui donc va se trouver avec ses trois fautes, avec le triptyque vaisselle, le repassage et surtout et ben, un nettoyage du salon. Et là, on va rire. C'était Supplément Week-end. Thomas, dis-moi, fais-moi le résumé de l'émission.
Eh bien, pour ce spécial 1er avril, tu t'es retrouvé avec un poisson dans le dos.
Oui, merci.
On a eu, si j'ai bien compté, on a eu 3 poissons d'avril aujourd'hui. Alors, avec Xavier et du sport, on vous invite à aller, si vous voulez réécouter l'émission, aller sur le site officiel de l'émission, en tapant sur Google le supplément week-end FMR. Et vous êtes invité à poster dans le commentaire vos propositions pour savoir c'était quoi les poissons d'avril aujourd'hui.
On donnera peut-être les réponses la semaine prochaine.
Oui, c'était assez gros, c'est assez facile. On a eu un Colombo spoilé, on a eu l'oreillette du sport qui a pas mal fonctionné. Et
qui a chauffé même.
Qui a chauffé, et du sport qui a été testé à 3 reprises. D'ailleurs, tu as tellement bien vendu le documentaire en Coupe Abidal que je l'ai même noté, c'est la première fois. Et je pense que je vais me l'enregistrer, tiens, cette semaine.
Voilà, et ben on tasse professionnellement.
On tasse les feuilles.
Les feuilles, mince. Tout ça pour vous dire donc, tout à l'heure, ça en dédicace le dessinateur de Butch Cassidy, Jean-Emmanuel Vermeaux des Roches, c'est à la librairie Terre de Légende. Nous, on passera lundi prochain en off.
Oui.
À 20h.
Sur cette antenne, ouais.
Pour Olivier qui reçoit 10 groupes de rock pour la semaine du rock. S'il vous plaît, la semaine prochaine, on reçoit, s'il vous plaît,
Frédéric Boilet
et Aurélia Horita, donc pour l'exposition, pour l'événement Nouvelle Manga qui aura lieu à Toulouse. Donc on en parlera justement, ce sera l'occasion. C'est vrai que j'ai couvert l'événement à Tokyo il y a 5 ans, donc je suis très content que le deuxième épisode se passe à Toulouse. Donc voilà, zou.
Et puis si vous voulez traîner vos gamins pour aller prendre l'air cet après-midi, vous avez toujours le carnaval de Tournefeuille, le défilé de chars, spécial jour de pluie, à partir de 15h et qui se déroulera tout l'après-midi.
La suite des programmes sur Radio FMR avec de Zarma Farai, c'est du reggae. 17h, Vie d'ordure. 18h, Tu peux l'ouvrir, une émission participative. 20h, L'Est hétéro expérience, une émission complètement délirante musicalement. 21h30, Liquid Sky. Et 23h, Breakbeat expérience. Mais de suite, c'est du sport qui a déjà pris la suite. Tiens, du sport.
14h20, c'est toujours Radio FMR 89.1. Un peu de sport jusqu'à 14. Ouais, c'est ça, 14. Avec les faits divers. En Allemagne, ça commence à chier de plus en plus. Il n'y a pas qu'en Allemagne, en Belgique aussi. En Allemagne, de nouvelles révélations du parquet de Munich qui a annoncé qu'il enquêtait sur 3 personnes soupçonnées d'avoir tenté de manipuler les résultats de plusieurs rencontres du championnat de première division, la Bundesliga. Les 3 personnes qui font l'objet d'investigations travaillent dans les officines de Paris, de München et de Nuremberg, mais seraient de nationalité croate et auraient participé à la manipulation de plusieurs rencontres de Bundesliga, dont 3 du club de Nuremberg. Chez nous, ça marche aussi bien avec le procès de Marseille en ce moment. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, enfin, dans l'équipe magazine de la semaine dernière, le livre noir, les procès, le procès prochain du PSG. Les comptes truqués du PSG. Depuis, Canal+ a suspendu tous ses trucs publicitaires dans l'équipe et dans toutes les revues affiliées. C'est un peu la guerre, quoi. Prochainement au tribunal, PSG. Pour l'instant, c'est Marseille avec cette semaine. Cette semaine, bah si, hein, bah, c'est pas des conneries. Cette semaine, donc, les peines réclamées à l'encontre des différents intervenants. Alors, je cite que les plus énormes, hein, de toute façon, Rolf Wegner, agent de joueur, il y a surtout les agents de joueurs, ainsi que les hauts responsables, à savoir les présidents et les présidents délégués du club olympique de Marseille, qui ont eu des peines réclamées un petit peu élevées, on va dire. Rolf Wegner, lui, interdiction d'exercer l'activité d'agent sportif pendant 3 ans, 750 000 euros d'amende, 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Jean-François Larios, qui est agent, qui est ex-joueur, interdiction, et qui a niqué la nana de Platini, c'est pour ça qu'il a jamais pu être sélectionné avec l'équipe de France. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Interdiction d'exercer l'activité d'agent sportif pendant 5 ans, 375 000 euros d'amende, un an ferme d'emprisonnement requis. Licio Donofrio, autre agent de joueur assez connu, et également vice-président, président du Standard de Liège en Belgique. Interdiction d'exercer l'activité d'agent sportif pendant 5 ans, 650 000 euros d'amende, 2 ans d'emprisonnement, dont un ferme. Et les présidents, donc, il y a également Roland Courbis, alors lui, il a pris pas mal aussi, hein. Enfin, il risque pas mal. Interdiction d'exercer pendant 5 ans, 375 000 euros d'amende, 2 ans de ferme requis. Robert Louis Dreyfus, 375 000 euros d'amende, 3 à 4 ans d'emprisonnement avec sursis. Et Yves Marchand, hein, qui est un ex-président délégué de l'Olympique de Marseille, 375 000 aussi, hein, c'est-à-dire la moitié de 750 000, et 2 ans avec sursis. Et la palme de la semaine, elle revient quand même à celui qu'on verra plus jamais sur un terrain de foot, du moins professionnel. Du côté de la fédération italienne et du côté de la fédération de foot, là, ils sont contents, ils sont ravis, c'est génial. Regarde l'exemple, on l'a, nous, on lutte contre le dopage. Le footballeur milieu de terrain de Sienne, Jonathan Biachini, suite à son contrôle positif à la cocaïne, a été suspendu à vie. À vie, eh ouais, à vie, c'est fini mon gars, terminé. Bon, il a déjà 30 balais, ça va, il a dû en mettre un petit peu de côté. S'il a pas tout craqué dans la coque, alors donc ça peut un petit peu aller pour lui. Il compte quand même 2 sélections en équipe nationale, hein, et il avait déjà été suspendu, hein, et donc c'est sa deuxième, c'est une récidive, et c'est pour ça que, hop, il a pris le maximum, suspendu à vie. Il a déjà été contrôlé positif en novembre 2004, alors qu'il jouait dans un autre club à Brescia.